bien branché? Est-ce que vous êtes bien branché? En parlant de bien branché, n'oubliez pas de remplir votre cas bien branché. J'ai oublié de le dire tantôt, mais nous commençons notre cours Bâtir sur le roc la semaine prochaine, si ça vous intéresse, à 9h, Bâtir sur le roc avec Donald et Alice. J'avais tellement d'annonces à faire ce matin, j'ai oublié en coupe. Mais tout le monde, prenez votre Bible, ouvrez la fin que je vous ai donnée avec les versets qui sont écrits dessus. On va faire une déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Et moi, je le crois. Est-ce que vous croyez à ça? Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous faisons 9e leçon, on pourrait dire, 9e message dans une série sur comment marcher dans la bénédiction de Dieu. Juste pour faire un petit sondage, bref, combien de vous, vous aimeriez être béni au lieu d'être maudit? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait mieux être maudit que béni? Il y a un monsieur avec la main dans l'air, mais je pense qu'il n'a pas écouté. Non. C'est intéressant, n'est-ce pas, que à 100%, tout le monde veut être béni, n'est-ce pas? Et ce que nous allons voir, c'est que c'est toujours la volonté de Dieu pour son peuple d'être béni et de marcher dans la bénédiction de Dieu. Il veut qu'on soit béni plus que nous désirons être béni. Il est notre Père. Il est bon et il nous aime. Et notre texte clé pour cette série se trouve en Galates chapitre 3, verset 13. Si vous voulez y aller, on va lire ce verset qui est plein de vérité, plein de puissance et capable de nous transformer. Galates chapitre 3, verset 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, qui comprend trois choses. Quelles sont les trois choses? La mort spirituelle, la pauvreté et la maladie. Jésus nous a rachetés. On a vu, sûr, que la maladie, c'est vraiment le résultat du péché qui est entré dans le monde. Cela ne veut pas dire que chaque personne qui est malade a commis un péché spécifique. Mais parce que nous vivons dans un monde infecté par le péché, on est maintenant susceptible, on est capable de tomber malade. On a vu que, vraiment, la maladie, c'est une oppression satanique. Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? C'est que, pas juste la maladie, mais aussi la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi. On a vu les vidéos de la croix en Inde, et on a vu que c'est un peuple qui est opprimé, ce peuple qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. On voit qu'ils sont opprimés avec la maladie, toutes sortes de choses grotesques même, et en plus, ils sont pauvres. Je sais que quand j'étais au Mexique, il y a quoi, donc 12 ans, je suis allé pour faire du ministère aussi avec une équipe, de faire une croisade et de former les leaders. C'était la même chose là. On n'était pas dans les places de vacances. Souvent, les personnes vont aller à Acapulco et les places de même. Ils pensent Mexique, c'est une belle place. Mais quand vous êtes dans un désert et les personnes vivent littéralement dans les poubelles et dans les petites maisons construites de carton, haut de même. C'est là leur maison. Et on voit les personnes les enfants qui se promènent dans les rues, qui sont nus, qui n'ont rien à porter sur le dos et qui ont presque rien à manger. Là, laisse-moi vous dire, impossible pour quelqu'un de me convaincre que c'est une bénédiction d'être pauvre. Impossible. De voir les personnes qui vivent dans la misère, qui n'ont pas assez pour manger, pas assez pour s'habiller comme il faut. Ça, ce n'est jamais la volonté de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand la bonne nouvelle est annoncée, Les personnes sont délivrées de la mort spirituelle, ils sont nés de nouveau. Et ceux qui croient à la pleine évangile, ils vont aussi recevoir la guérison pour leur corps physique et ils vont être délivrés aussi de la pauvreté. Il y a certaines choses que c'est sûr, c'est pas du jour au lendemain. Même quand une personne est guérie, des fois, la personne est quand même faible. Il a besoin, comme tu as vu les personnes sur la vidéo qui ils commençaient à marcher. C'est la première fois qu'ils ont marché, mais on voyait que les muscles étaient presque plus là. Ils avaient besoin d'exercice, ils ont besoin de se nourrir. Jésus, quand il a ressuscité la fille de Jairus, qu'est-ce qu'il a dit, première chose? Donnez-lui quelque chose à manger. Des fois, les personnes disent, oh, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que si c'est vraiment un miracle de Dieu, il aurait pu remplir l'estomac aussi. Laissez-moi vous dire que Dieu va faire l'impossible, mais nous avons besoin aussi de faire le possible. Amen. Dieu n'a pas besoin de remplir notre estomac quand nous avons de quoi devant nous et on peut le faire soi-même. Et quand on parle de la prospérité, je veux juste ouvrir une petite parenthèse et donner un petit avertissement. On va voir aujourd'hui, encore une fois, que c'est la volonté de Dieu pour vous d'être prospère. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez vous asseoir sur votre divan et dire, oh merci, je suis prospère. Seigneur, merci que tu vas pourvoir tous mes besoins. Non, la Bible dit que celui qui travaille mange. Amen. La Bible dit qu'il faut faire attention, ne pas trop dépenser, ne pas s'endetter, les choses de même. Il y a des choses pratiques, il y a un côté pratique que peut-être on va voir à mon retour de la Californie. Mais aujourd'hui, je veux juste donner cet avertissement. Pensez pas juste parce que Dieu veut vous délivrer de la pauvreté que ça va arriver du jour au lendemain et que ça va être automatique. Vous avez un rôle à jouer aussi. Vous avez des choses à mettre en marche, vous aussi. Alléluia. Mais on va commencer aujourd'hui, on va parler des mythes, les mensonges et les malentendus qui nous rendent misérables. Les mythes, les mensonges et les malentendus qui nous rendent misérables. Savez-vous que les personnes qu'on a vues dans la vidéo, avant de connaître Jésus, on voit qu'ils sont misérables. Et aujourd'hui, au Québec, on peut se promener dans les rues de Drummondville et ça ne serait pas difficile à trouver des personnes qui sont misérables. Est-ce que vous êtes d'accord? Et plusieurs sont misérables parce qu'ils sont misérables au niveau de sur le plan physique, au niveau de leur santé, mais il y a d'autres qui sont misérables sur le plan financier aussi. Ils n'ont jamais assez. Ils ont toujours des manquements. Jamais assez pour payer les factures, etc. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Et souvent, ces personnes se trouvent même dans les églises de Jésus-Christ. Et ça, c'est de valeur. Parce que ceux qui sont les enfants de Dieu devraient vivre comme les enfants de Dieu, qui est un Dieu d'abondance, qui est un Dieu qui est riche. Amen. Alléluia. J'ai pas dit que tout le monde est supposé d'être millionnaire. On a donné une définition de la richesse la semaine passée. Selon la Bible, être riche veut dire d'avoir toujours de quoi satisfaire à vos besoins, avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. Et c'est différent. Il y a différents niveaux de richesse. OK? Il y a certaines personnes qui sont appelées à être milliardaires pour pouvoir donner des millions aux missions. Et souvent, c'est des enfants de Dieu qui sont fidèles, qui savent donner, qui savent comment semer, qui savent comment obéir à Dieu, que le Seigneur va utiliser pour devenir riche comme ça, pour pouvoir donner davantage. Mais moi, je suis là pour dire que Dieu veut que tous ses enfants soient enrichis sur le plan spirituel, émotionnel, physique et financier. Dieu veut que vous soyez riches. Demandez, Dieu veut que je sois riche. Et cela ne veut pas dire millionnaire encore. Cela ne veut pas dire que tu vas forcément rouler dans la plus grosse auto et avoir tous les bijoux sur chaque doigt etc. Et faire des choses qui sont un peu de gaspillage. Non. Je parle d'être riche selon Dieu. Être riche selon Dieu, c'est d'avoir toujours de quoi satisfaire vos besoins avec un superflu pour donner aux autres. Amen. Mais comment est-ce qu'on peut être riche comme ça si pendant toute notre vie, on a entendu le contraire? Si pendant toute notre vie, la religion nous a enseigné que non, c'est pas bon d'avoir des choses, c'est pas bon d'avoir les biens de ce monde, c'est pas bon d'avoir les richesses, c'est dangereux. Et est-ce que c'est dangereux d'avoir les richesses? Oui, si votre cœur n'est pas droit avec Dieu. Mais si votre cœur est droit avec Dieu, non, au contraire, c'est la meilleure chose. Et en fait, on va lire en 3 Jean chapitre 1. Si vous voulez, c'est dans vos notes. La parole de Dieu dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça, c'est Dieu qui a inspiré ce verset. Vous êtes d'accord, oui? Hein? Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Bien-aimé, Dieu le dit à vous. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, 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 mais ça veut dire spirituel. Non, à tous égards. Et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, c'est ton intellect, tes émotions et ta volonté. Et laissez-moi vous dire que la prospérité commence entre vos oreilles. Mais ça commence dans votre cœur quand vous recevez Jésus. Légalement, selon la parole de Dieu, vous êtes déjà racheté de la pauvreté et vous êtes déjà riche en lui. Amen. En fait, si vous pouvez comprendre, une fois pour toutes, qu'en Jésus, toute chose vous appartient, que vous faites partie de la famille royale, que votre Père Céleste est le roi de l'univers, que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, tout ce qui appartient à Jésus vous appartient. Amen. C'est la parole de Dieu, là. C'est pas une chose inventée. C'est pas une chose inventée. C'est la parole de Dieu que je vous prêche. Si vous pouvez comprendre une fois pour toutes, dans le fond, même s'il désert, je suis riche. Même si j'ai perdu mon portefeuille, je suis quand même riche. Un millionnaire qui perd le portefeuille, est-ce qu'il est pauvre? Non. Il est juste temporairement pas capable de faire des transactions et de retirer des choses. C'est temporaire et c'est passager. Parce que dès qu'il arrive encore chez lui, il peut appeler, il peut arranger les choses et son argent est toujours placé en son nom. Amen. Et je veux que vous sachiez que même si temporairement, pour une raison quelconque, le diable a volé votre portefeuille spirituel, vous êtes quand même riche en lui. Amen. Même si temporairement, vous êtes sans provision, c'est juste temporaire. Et la prospérité commence entre ici dans votre cœur et ensuite entre vos oreilles. J'espère et je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que si ton âme, si tu penses prospère, tu vas prospérer à tous égards. Mais si tu penses pauvreté, tu vas vivre dans la pauvreté. Si tu penses, comme j'ai entendu l'expression, mais moi je suis né pour un petit pain. Si c'est comme ça que tu penses, tu vas avoir des petits pains et des miettes. Mais si tu penses, non, je suis né de nouveau. Je suis né, transporté du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils, bien-aimé. Je suis dans le royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu, un prince dans la famille royale. Une princesse, si vous voulez. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut renouveler notre intelligence. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voulez-vous voir vos finances transformées? Ça commence ici. Renouvelez votre intelligence avec la parole de Dieu. Amen. Et sachez ceci. Marc chapitre 7, Jésus a dit quelque chose qui est très fort. Il a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup de choses semblables. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la tradition des hommes, des choses qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu, peuvent anéantir et rendre impuissants et inefficaces les promesses et la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si quelqu'un a été enseigné pendant toute sa vie que c'est la volonté de Dieu, des fois il va vous donner les cancers, des maladies graves pour vous enseigner des choses. Si une personne a été enseignée comme ça et entend et il lit dans la parole de Dieu que par les meurtrissures de Jésus, il a été guéri. Il dit, oui, je sais que la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, mais telle personne qui est très religieuse m'a dit, et puis la parole est sans puissance. Même chose, quelqu'un qui a été enseigné toute sa vie que, vois-tu, la richesse, l'argent, les biens physiques, c'est pas de Dieu. Vous êtes supposé d'être pauvre, vous êtes supposé d'avoir juste assez pour survivre. Quelqu'un qui est enseigné de même, même quand il lit les versets comme on vient de lire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il va dire, ah oui, je sais que la Bible dit ça, mais les mythes, des fois, les mensonges, et des fois, c'est juste les malentendus qui nous rendent misérables. Donc, c'est quoi la réponse? C'est quoi le remède à ces affaires? Jésus l'a dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, aujourd'hui, on va regarder quatre mythes, ou quatre mensonges, ou malentendus, dites ça comme vous voulez, mais ils sont quand même des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Il y a des vérités de la parole de Dieu que l'ennemi a tordues pour nous rendre misérables. Savez-vous que le diable connaît bien sa Bible? Combien de vous vous êtes au courant que le diable connaît bien sa Bible? Et qu'est-ce qu'il aime faire, c'est de prendre les versets de la parole de Dieu, sortis de leur contexte, les tordre pour nous emprisonner. Il y a tellement de traditions. La religion nous a fait tellement tort. Et ici, on voit, première chose dans vos notes, premier mensonge ou tradition que nous allons regarder ensemble, c'est que la tradition que Jésus vivait toujours dans la pauvreté. Et si Jésus est notre modèle et Jésus était pauvre, nous devrions être pauvres aussi. Combien de vous, soyez honnêtes, vous avez grandi avec cette mentalité que Jésus était pauvre? Levez la main. Moi, j'ai grandi avec cette mentalité. Je pensais que c'est pauvre, il est pauvre, il était pauvre, ses parents étaient pauvres, sa famille était pauvre. Et on a dit les choses, par exemple, mais vois-tu, on sait que Jésus était pauvre parce que, de toute façon, il n'est pas venu au monde dans un palais, il est né dans une étable. Est-ce que c'est vrai que Jésus est venu au monde dans une étable? Pourquoi? Parce que ses parents étaient cassés. C'est parce qu'ils n'avaient pas un sou sur eux. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour payer un hôtel. Ils étaient pauvres. Et Dieu a envoyé son fils pour être né dans une famille pauvre, pour prouver que la pauvreté, c'est sa volonté pour nous ici sur la terre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que la tradition nous dit. Mais la Bible dit ceci, verset 6 de Luc 2, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'émaillota et le coucha dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Ça me dit qu'ils étaient sûrement en train de chercher un hôtel. Et ils ne cherchaient pas un hôtel sans avoir les provisions pour, sûrement. Amen? Donc, ôtez cette idée que Jésus est né dans une famille pauvre. Hein, vois-tu, la Bible dit que Jésus était sans abri parce que Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ça donne l'impression que Jésus était pauvre, n'est-ce pas? Mais remarquez bien, Jésus était sur la terre pour 33 ans. Et les premiers 30 ans de sa vie, il n'était sûrement pas sans abri. Quand il a vécu avec sa famille, qu'est-ce qu'on sait? C'est que quand Jésus a répondu à sa destinée, son appel pour devenir sauveur de ce monde et d'exercer son ministère terrestre et puis de donner sa vie sur la croix, c'est sûr qu'il avait un ministère, on pourrait dire, itinérant. Il se promenait de lieu en lieu. C'est ça que la Bible dit. Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et là, le contexte de ce verset, c'est des personnes qui voulaient suivre Jésus. Il est en train de dire, écoute, est-ce que tu es prêt à quitter ta maison? Est-ce que tu es prêt à quitter ta famille? Est-ce que tu es prêt à quitter ta terre? Hein? Et on voit, il a dit ailleurs, il a dit, plus loin, il a dit qu'il n'y a pas une personne qui pour l'Évangile a quitté sa mère, qui a quitté son pain, qui a quitté sa maison, qui a quitté sa femme, que cette personne va recevoir quoi? Au centuple, qu'est-ce qu'il va recevoir? Les maisons. Wow! C'est-à-dire que quelqu'un quitte sa maison pour aller suivre Jésus, il va avoir les maisons au centuple. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Parce que vois-tu, ça c'est encore la mentalité que tout ce que nous avons, dans le fond, lui appartient. On est vraiment riche en lui. Quelqu'un qui obéit au Seigneur, qui s'occupe des affaires du Père, le Père va s'occuper de ses affaires. Comment est-ce qu'il va avoir une centaine de maisons? Est-ce que ces maisons vont être à son nom? On ne sait pas, mais probablement, on sait qu'à chaque place qu'ils allaient, ils ont été reçus, accueillis. Amen. Les personnes leur ont donné de quoi manger aussi, leurs besoins ont été rencontrés. Et sûrement, ils avaient aussi, probablement, leur propre résidence aussi. Dieu n'est pas contre l'idée pour vous d'avoir votre propre résidence. Juste une autre parenthèse, des fois, ça serait une chose que j'aimerais voir plus de chrétiens viser ça comme but. Savez-vous que c'est pas beaucoup plus cher d'être propriétaire que d'être locataire? Et laissez-moi vous dire, vous pouvez être propriétaire et payer des fois 3, 4, 500 dollars par mois pour une hypothèque, mais les gens vont payer 500, 600 pour un loyer. Amen. Juste une pensée, hein? Et après 10 ans d'avoir payé ton hypothèque, tu vas avoir un cash de disponible. Tandis qu'après avoir payé ton loyer, vois-tu? Des fois, c'est juste une mentalité de mémoire. Non, moi, je ne pourrai jamais être propriétaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, parce que mon père n'était pas propriétaire. Mon grand-père n'était pas propriétaire. Mon arrière-grand-père n'était pas propriétaire non plus. Donc, moi, je suis venu au monde et né pour un petit pain et pour un loyer. Non, pas forcément. Il n'y a rien de méchant là. Il y a des personnes qui préfèrent ça, et ça, c'est correct. Mais c'est juste pour... Je veux ouvrir vos yeux pour voir un peu plus grand. Il y a des possibilités devant vous. Et aujourd'hui, avec le gouvernement, ils donnent les avantages. Et ils aident les personnes à devenir propriétaires. Et c'est assez facile. Si vous vous êtes prêt à travailler et planifier comme il faut, vous pouvez le faire. Amen? Hey, mais c'est dimanche matin, ils parlent de ça. Oui, pourquoi? Parce que je vous aime. Et je veux vous aider. Je veux voir un peuple qui est prospère. Amen. Qui a toujours de quoi satisfaire à ses besoins, mais assez en superflu pour satisfaire tout bonheur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Des fois, c'est juste une question de sagesse. C'est juste une question de pas à travailler plus fort, mais de travailler avec plus de sagesse. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre. Il s'est marqué en 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus pour qui vous s'est fait pauvre, riche qu'il est, afin que par sa pauvreté, vous fûtes enrichi. Oh, mais ça prouve que Jésus s'est fait pauvre. Oui, il s'est fait pauvre. Mais quand et où? Quand et où? On parle de la rédemption de Jésus. On sait que dans un sens, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre juste en venant sur la terre. Laisse-moi vous dire, un millionnaire, un milliardaire, comparé à quelqu'un qui vit au ciel, regarde comme quelqu'un qui est pauvre, n'est-ce pas? Mais je suis convaincu de ceci, et ça c'est ma conviction, que quand la Bible dit qu'il s'est fait pauvre, quand est-ce qu'il s'est fait pauvre? Mais quand est-ce qu'il s'est fait pécher pour nous? À la croix. Quand est-ce qu'il s'est fait malédiction pour nous? À la croix. Quand est-ce qu'il s'est fait pauvre pour nous? Ça c'est ma conviction. Sur la croix, il n'avait plus rien. Il était nu, tout nu, il n'avait rien. Amen. Ils ont enlevé même ses vêtements. Alléluia. Mais donc, vois-tu, il y a des monde qui dit, « Oh, mais Jésus était pauvre, il était pauvre, il était pauvre. » Mais n'oublions pas, c'est dans vos notes, que, voici juste des pensées. Premièrement, Jésus avait un emploi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus était sans emploi ou est-ce qu'il avait un emploi? Jusqu'à l'âge de 30 ans, il travaillait. On voit cela en Marc chapitre 6. N'est-ce pas le charpentier? Il n'a pas dit, n'est-ce pas le sans-abri? Non, pour vrai. Parce que je ne dis pas ça pour se moquer. Il y a des personnes qui sont sans-abri qui ont besoin d'aide et on a besoin d'être ému de compassion pour eux. Amen. Mais moi, j'ai grandi avec cette perception que Jésus se promenait toujours sans abri, pauvre, absolument rien. Mais la Bible dit, Il était charpentier. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'engager un charpentier dernièrement? Dernière fois que j'ai checké, ils font pas les choses gratuitement. Dernière fois que j'ai vu, ils chargent assez cher. Et voici un charpentier juif. Je dis ça avec tout le respect, parce que moi, j'aime le peuple juif. Les gens se moquent des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils disent, oh, pourquoi hein, certaines personnes dans l'histoire ont méprisé les juifs? Parce que les juifs s'installent et commencent à faire. Et leurs affaires, leur commerce prospère, tandis que les autres ne sont pas aussi prospères. Et les gens sont rendus jaloux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les tuer. Ça, c'est la vérité. Donc, Jésus était un charpentier juif. Il faut qu'on s'allume un peu. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on sorte de cette brume de tradition, de cette idée que Jésus était pauvre. Il était charpentier. Il était juif. Amen. On voit aussi que Jésus et ses disciples, pendant son ministère, ils avaient de l'argent sur leur possession, dans leur possession. Jésus et ses disciples avaient de l'argent. Comment est-ce que je le sais? Parce que la Bible dit, Jean 4, 8 dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et laisse-moi vous dire, ils ne sont pas allés pour chanter pour manger non plus. Si je chante pour toi, est-ce que tu peux me donner du pain? Non, ils avaient de l'argent pour payer leur propre pain. Amen? Jean 13, 29 dit ceci, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, intéressant. Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Vois-tu, quand Judas, lors de la dernière souper des disciples, la nuit où Jésus fut livré, Judas d'Iscariote, il s'est levé debout, il est sorti dehors, et qu'est-ce que les disciples pensaient? Sûrement, il est allé acheter quelque chose avec quoi? Parce que lui, il avait la bourse. OK? Ou, peut-être, il est allé donner quelque chose aux pauvres. Ça me donne l'impression, je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais ça me donne l'impression qu'ils étaient habitués à voir Judas ou Jésus, dans son ministère, aller donner des choses aux pauvres. Est-ce que ça vous étonnerait que Jésus donnait des choses aux pauvres? Il n'a pas dit, oh, mais les disciples pensaient que Judas est allé mendier quelque chose pour la Pâque. C'est pas marqué que Judas est allé mendier. Il est allé soit acheter ou donner. Intéressant, n'est-ce pas? C'est Jésus, on parle de Jésus et ses disciples. Ils avaient une bourse. Et probablement, il y avait une assez grande quantité d'argent dans cette bourse, probablement, parce qu'il y avait quand même une équipe de 12 personnes. Hein, faire vivre 12 personnes, voyager avec 12 personnes, acheter la nourriture, acheter les choses, ça prend quand même des sous, n'est-ce pas? Donc, une autre chose qu'on voit dans la parole, que Jésus avait des partenaires financiers. D'où venait cet argent? Et il y a des personnes de leur propre volonté qui ont soutenu le ministère de Jésus. Matthieu 27, 55 dit, « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. » Intéressant. Jésus avait un groupe des personnes qui suivaient son ministère pour le servir. Et on voit un peu plus de lumière en Luc chapitre 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de quoi? De leur bien. Est-ce que vous voyez? Jésus avait une provision. Je suis convaincu. Il avait une provision en tant que charpentier quand il a quitté son commerce pour aller dans son ministère terrestre. Il avait quand même une provision jusqu'au point où ils avaient besoin d'avoir une bourse. Ils avaient besoin. Là, on voit, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que c'est qui a trahi Jésus? Judas. On va voir tantôt, c'est vrai que si notre cœur s'attache à l'argent, c'est dangereux. Dieu ne veut pas qu'on soit en amour avec l'argent. Il veut qu'on soit en amour avec lui. Mais si on est en amour avec lui, aucun danger. On peut avoir les biens qui nous sont donnés et on peut les transmettre aux autres parce que nous avons cette conviction. Ce n'est pas mes biens, ce sont ses biens. Amen? Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, lui appartient. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Une autre chose qui me manque, qui me fait penser à pauvre, c'est que quand il était crucifié, Jésus avait une tunique sans couture. Savez-vous, selon ce que j'ai entendu et lu, dans les personnes à l'époque, souvent ils n'avaient pas assez de moyens pour faire une tunique d'un seul morceau de tissu, donc ils prenaient des morceaux ici et là et les mettaient ensemble. Mais ici, encore, je ne suis pas dogmatique là-dessus. Mais c'est juste des choses qui sont intéressantes à penser, n'est-ce pas? Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, 1 part pour chaque soldat, et ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Intéressant que la parole de Dieu prenne la peine de décrire le vêtement de Jésus, n'est-ce pas? On n'a pas l'impression d'un sans-abri qui n'a rien à porter sur son dos. Hein? Et il a dit, ici, elle a continué, il se dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés de mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. N'est-ce pas merveilleux? Des centaines d'années avant, ça a été prophétisé. Jésus est Seigneur. Amen. Dernière raison que je crois que Jésus n'était pas pauvre, c'est que Jésus a obéi parfaitement à la loi de Moïse. On a vu, c'est quoi? On a vu en Deutéronome, Moïse a dit au peuple de Dieu que si tu obéis, tu seras, quoi? Béni. Si tu obéis, il a dit, hein, je vais ouvrir les écluses des cieux, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, ta corbeille, ta huche, et toute l'équipe, tes moutons et tes animaux vont être bénis, tu vas être multiplié. Si tu marches dans l'obéissance à la loi que je te prescris aujourd'hui, tu vas prospérer. Donc, est-ce que tu crois que la loi de Moïse a fonctionné pour Jésus? Sûrement. Donc, c'est presque un scandale de dire que Jésus vivait dans la pauvreté. Parce que vivre dans la pauvreté veut dire qu'il vivait sous la malédiction de la loi. C'est pas vrai. Il est devenu malédiction à la croix. Amen. Alléluia. Pensez à ça comme il faut. Non, ça c'est à propos de Jésus. Même chose pour les disciples, par exemple. Vois-tu, on pense toujours, oh, les disciples étaient pauvres. On pense toujours, les sans-abri, sans-emploi. C'est pas vrai. Pierre, qu'est-ce qu'il faisait quand Jésus l'a appelé? Il était à la pêche, il travaillait. Et on pense, oh, mais lui, il était un pêcheur. Mais savez-vous quoi? Même quand Jésus a de pêche miraculeuse, la grande grosse récolte qu'il a eu des poissons, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêté son bateau à Jésus, sa barque à Jésus. Jésus a redonné la barque, on pourrait dire, pleine à craquer, pleine de poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Sûrement, probablement, il est allé au marché, il a vendu ses poissons. Amen? C'était un homme d'affaires. On pense qu'il était un pêcheur, ce n'était pas un gars qui était à la retraite, qui allait à la pêche à la mine. C'est un gars qui travaillait fort. Il avait un métier sérieux et important. Et on pense à Matthieu, qu'est-ce qu'il était? Collecteur d'impôts, qui ont été reconnus pour être des fois croches. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient trop d'argent. Donc, on vois-tu? Intéressant. Parce que voici, ça nous amène à un deuxième mythe et mensonge qui nous rend misérables. C'est que numéro 2, les riches ne peuvent pas être sauvés. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont entendu ça? Si vous êtes riche, vous ne pouvez pas être sauvés. Parce qu'ils vont lire les versets comme Marc 10, 23 qui dit, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus l'a dit, il sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Mais est-ce qu'il a dit que c'est impossible? Non. C'est difficile. Pourquoi? Parce que les cœurs de ces personnes s'attachent à l'argent. Vois-tu, les personnes ont pris un verset de l'un et ont dit, mais vois-tu, ça prouve que Jésus était pauvre, les disciples étaient pauvres et qu'on devrait être pauvre aussi avec eux. Non. Continuons. Regardons qu'est-ce que Jésus a dit après. Les disciples furent étonnés. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il soit difficile. Jésus, une chose intéressante aussi, Jésus regardait autour de lui. C'est-à-dire que autour de lui, hein, parce qu'il n'oubliait pas, il était entouré par des Juifs. Amen. Il a regardé autour de lui et dit, « Oh, qu'il sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » La Bible ne dit pas qu'il regardait et cherchait un riche parmi la foule des pauvres. Non, il regardait autour de lui et dit, « Oh, ça va être difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et le disciple était étonné. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Imagine, s'ils étaient vraiment pauvres, sans abri, ils auraient dit, « Ouais, tu as bien raison. » Un jour, ils vont avoir leur dit. Hein? Mais il a dit ceci. Le disciple fut étonné de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, ok, laisse-moi vous expliquer qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Vois-tu? Il n'a pas dit que ceux qui sont riches ne peuvent pas entrer, mais il a dit que c'est difficile pour ceux qui se confie dans la richesse. Mais intéressant, je vais juste lire le verset qui suit, qui n'est pas dans vos notes. Est-ce que vous êtes encore avec moi ce matin? Alléluia! Et il dit, verset 26, « Les disciples furent encore plus étonnés. » Parce qu'il a dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. Ça serait plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Aiguille, je suis d'amuser avec ce mot, mais... Aiguille. Bon, est-ce que je l'ai eu? Hey, gloire à Dieu! Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Réveillons-nous! Il a regardé autour de lui, ah, qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entraîner, ceux qui se confient dans les richesses. Il s'est plus fait pour un chien de passer par le trou d'un aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume, encore plus étonné, et qui peut être sauvé? Ça, c'est pas un groupe de gars qui avait une mentalité de pauvreté. Ça, c'est un groupe des hommes d'affaires juifs qui suivaient Jésus, qui ont laissé leur commerce pour suivre le Seigneur, qui ont dit, mais si les riches ne peuvent pas être sauvés, qui peut être sauvé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Même les riches peuvent être sauvés. Amen. Alléluia. Restez avec moi. Vois-tu, la Bible ne condamne pas les richesses. La Bible condamne la confiance dans les richesses. 1 Timothée 6, 17 dit, recommande, et ça c'est dans le Nouveau Testament, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui fait quoi? Qui nous donne avec abondance, on dit avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu veut vous bénir pour que vous puissiez être une source de bénédiction pour les autres. Moi, je vais être capable d'écrire les chèques par des dizaines, des douzaines, des milliers pour envoyer les missionnaires en Outre-mer. Comment est-ce qu'on peut envoyer ceux qui ont l'appel de Dieu pour aller prêcher l'Évangile si nous sommes pauvres et on n'a pas assez même pour payer nos propres factures?
Qu'est-ce qu'on va faire pour imprimer les Bibles dans les langues que la Bible n'existe même pas dans leur propre langue? Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander, mendier aux imprimeries, s'il te plaît, imprime pour nous les Bibles. Non, on va payer. Amen? Allez, les gars, vous voyez mon cœur? Numéro 3, troisième mensonge, c'est ça. On a entendu souvent, en grandissant, j'ai souvent entendu que l'argent est la racine de tous les maux. Est-ce que vous avez entendu ça? L'argent est la racine de tous les maux. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. 1 Timothée 6, 10 dit qu'à l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si vous aimez l'argent, et laissez-moi vous dire, beaucoup de gens pensent que c'est seulement les riches qui aiment l'argent. J'ai découvert que c'est souvent le contraire. Souvent, les personnes pauvres et diminuées aiment l'argent plus que les riches. Surtout dans le royaume de Dieu. Parce que quelqu'un, laissez-moi vous dire, qui n'a pas assez pour payer ses affaires, qu'est-ce qu'il pense à quoi? L'argent. Où est-ce que je vais trouver l'argent? L'argent, l'argent. Tandis que quelqu'un qui sait qu'il est béni, qui sait comment activer les promesses de Dieu, qui sait marcher dans la prospérité, il n'est pas inquiet, il sait. Dieu va pourvoir mes besoins avec toutes sortes de grâces. Amen. Je vais avoir toujours de quoi satisfaire mes besoins avec un superflu pour participer à tout bonheur. Et vois-tu, une autre parenthèse, ça c'est encore une raison pourquoi la dîme est tellement importante. On a dit qu'on ne peut pas juste s'asseoir et dire « Oh, je suis prospère, je suis prospère ». Il faut travailler, il faut honorer Dieu aussi. Première chose que Dieu a instituée, et je suis convaincu que la raison primordiale pour laquelle Dieu a institué la dîme, c'est pour nous protéger contre l'amour de l'argent. Quand je donne la 10% de mes prémices de tous mes revenus, à chaque fois que ça soit 5 $, 5 sous, ou 5 000, ou 5 millions, je sais, aucun problème, que si quelqu'un me donnerait 2 millions de dollars demain, je n'aurais pas du tout un problème à donner la dîme. Et vous dites, ah, mais moi non plus. Mais pourquoi est-ce que je suis tellement convaincu? Parce que quand je n'avais presque rien, quand Tania et moi, on n'avait presque rien à manger, et il ne restait que 5 $ pour une semaine, on l'a donné. Amen? Et si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, des gens disent, mais si jamais j'ai plus, je vais donner. Ça ne marcherait jamais comme ça. Vous n'aurez jamais plus. Il faut commencer là où vous êtes. Amen. Et ça va garder ton cœur, protéger votre cœur contre l'amour de l'être. Amen. Numéro 4, quatrième mensonge. On va finir avec ceci. Est-ce que tout le monde est encore là? Alléluia. Savez-vous, on a besoin de se réveiller. Dieu est pour nous, pas contre nous. Mais quand Dieu nous demande de l'obéir dans les finances, c'est pas pour nous enlever quelque chose, c'est parce qu'il veut voir, est-ce que ce gars-là, est-ce que cette femme-là est digne de confiance? Est-ce que cette personne va m'honorer quand il n'a presque rien? Si oui, je vais lui donner encore plus. S'il est encore fidèle, je vais lui en donner encore plus. S'il est vraiment fidèle, je vais lui en donner encore plus. Amen? La dîme, c'est juste le commencement, laissez-moi vous dire. Le 10%, c'est même pas une question. C'est à Dieu, c'est pas à nous. C'est son argent. Amen? Et je sais qu'il y a des personnes qui se fâchent quand je dis cela, mais c'est pas moi qui l'a dit. C'est la Bible. C'est mon même toujours. Je vous aime aussi. Et je veux vous voir béni. Je veux voir dans vos finances plus que assez. Et je sais que vous n'aurez jamais, marquez mes paroles, vous n'aurez jamais plus qu'assez à moins de commencer à honorer Dieu. Amen. Ça marche comme ça. C'est l'amour. C'est comme quelqu'un qui se fâche quand quelqu'un dit, bon, mais si tu veux pas attraper ta maladie, il faut se faire vacciner. On emmène nos enfants pour qu'ils se fassent vacciner. Ce serait ridicule d'être fâché avec le médecin. Oh, toi, tu veux piquer mon enfant. Oh, tu veux lui faire mal. Non, je veux sauver sa vie. Amen. Donc, c'est la même chose, hein? Je sais, j'aurai des commentaires après. Ça ne me dérange pas. Alléluia. Numéro 4. Quelqu'un qui est vraiment spirituel ne s'intéresse pas à l'argent. Si vous êtes vraiment spirituel, vous ne vous intéressez pas à l'argent. Voyez-vous, il y a un genre de fausse humilité qu'on peut vivre. Une fausse humilité. Ou, des fois, c'est des mensonges. Moi, je m'en souviens, pendant longtemps, j'avais la conviction que Dieu voulait rencontrer mes besoins. Parce que la Bible dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais savez-vous que ça, c'est conditionnel aussi. Regardez Philippiens 4, il parle aux partenaires dans son ministère. Il a dit, « Il n'y avait aucune autre église qui a partagé avec moi en ce qui concerne donner et recevoir que vous autres. » Et maintenant, parce que vous avez partagé dans mon ministère, je sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est comme ça que ça marche. Amen. On s'occupe de ses affaires, il s'occupe de nous. Mais ici, pour longtemps, depuis des années, j'ai eu cette mentalité, Seigneur, je sais que tu vas pouvoir mes besoins. Mais je pensais, dans ma tête, entre mes oreilles, le problème, c'est que mes besoins comprenaient payer un loyer, acheter de la nourriture, payer les factures et donner ma dîme et quelques offrandes, c'est tout. Et un jour, j'ai entendu un autre prédicateur dire, « Savez-vous que vous avez besoin de plus que ça? Vous avez besoin. Vous avez besoin de pouvoir donner aux autres. » Et dans le fond, je me suis rendu compte que c'est un peu égoïste de penser que tout ce que j'ai besoin, c'est juste rencontrer mes besoins. Ça, c'est égoïste, n'est-ce pas? Je pense à moi, moi, moi. Mes besoins, mes factures, ma nourriture, mon auto, l'essence pour ma voiture. OK? Tandis que si on peut avoir cette mentalité, « Seigneur, je ne travaille pas juste pour gagner mon pain, je travaille pour gagner les âmes. Je gagne les âmes avec mes paroles, mais aussi, selon Éphésiens chapitre 3, il a dit que celui qui a volé cesse de voler et qui travaille avec ses mains afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » C'est le plan de Dieu et c'est de Genèse à Apocalypse, je peux vous montrer des milliers de places où c'est marqué. Dieu veut que vous soyez prospères. Dieu veut que vous ayez toujours de quoi satisfaire vos besoins avec un superflu. Et quelqu'un qui pense que oh, c'est pas spirituel d'avoir d'argent, il n'a pas beaucoup de soucis pour les âmes qu'on a vues en Inde, n'est-ce pas? Verset 9 dit, Luc 16, 9 dit, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » C'est Jésus qui parle. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman ou Dieu et argent. Quelqu'un qui est spirituel, maman, ou on peut dire argent, ou le système de ce monde, on ne peut pas travailler dans ce monde juste pour avoir l'argent et travailler pour Dieu en même temps. On devrait travailler dans le but, oui, on peut avoir des belles choses. Comme j'ai dit, moi, j'aimerais voir chaque personne ici, si vous voulez, j'aimerais voir chacun de vous propriétaire de sa propre maison. J'aimerais voir chacun de vous avec le transport qui vous convient. Amen? J'aimerais voir chacun de vous avec des vêtements qui sont propres et qui sont corrects. J'aimerais voir chacun de vous capable d'acheter amplement de nourriture pour bien nourrir votre famille avec la nourriture qui va leur donner la force et la santé nécessaires pour être un bon témoignage pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est qu'est-ce que je veux voir pour vous. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui dit, « Oh, le pasteur, il prêche sur l'argent. » Oui, je prêche sur l'argent parce que je veux voir plus dans votre poche. Amen. Alléluia. Et c'est Dieu qui a mis ces versets dans la Bible. C'est pas moi. Il veut que vous ayez toujours de quoi satisfaire vos besoins avec ce verset. Seigneur, est-ce que tu veux venir? On va fermer dans la prière ce matin. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? OK. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut s'humilier. Amen. Il faut passer à genoux. sachant que... Oh, laissez-moi vous dire, moi j'ai tellement hâte de voir notre Église en santé spirituelle, physique, financière. Amen. Dieu veut que cette Église soit un modèle de la vie abondante. On est supposé de porter notre nom, la vie comblée. Amen. La vie comblée. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas vous enlever quoi que ce soit. Il veut vous donner et vous donner et vous donner. Mais celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Gardez votre cœur. Protégez votre cœur contre l'amour de l'argent. C'est dangereux. C'est comme une épine qui va étouffer la parole de Dieu, les soucis de ce siècle. Le désir de toujours, si vous voulez vous enrichir, juste pour vous enrichir, vous allez avoir des problèmes et vous allez faire naufrage dans votre foi. Mais quelqu'un qui est vraiment riche est capable. Quand Dieu met quelque chose entre ses mains, est-ce que vous pouvez me donner juste une minute de plus? Parce que le Seigneur m'a montré ces choses d'une façon réelle. Moi, je sais, un jour, il y avait une époque, quand on était dans le ministère, on voyageait, j'avais juste un veston, un pantalon, c'est tout. Et ma femme était tannée de me voir toujours habillée dans la même affaire. On ne gagnait pas beaucoup d'argent à l'époque. Ça, c'était à peu près la même époque qu'on avait 6 $ pour la semaine. On voyageait, on prêchait dans les églises, et souvent, on allait faire des 200 000 pour dépenser des centaines de dollars en gaz, et je reçois une offrande de 25 $. Okay? Donc, je paye pour prêcher. Mais la fille, Seigneur, mon mari a besoin des vêtements. Seigneur, que ça soit de l'argent, ou je ne sais pas comment, mais il a besoin des vêtements. C'est presque honteux. OK? Je ne savais pas qu'elle a prié ça. Quelques mois avant, j'ai reçu ma mère qui habitait en Outre-mer à l'époque. Et elle est revenue, elle m'a donné un chandail que j'ai vraiment aimé. C'était fabriqué en Italie, j'ai aimé ça, c'était un bon chandail, j'étais content. Je suis allé prêcher dans une petite église au Missouri et le pasteur a dit, « Oh, c'était un beau chandail. » En sortant de la maison, le Seigneur m'a dit, « Donne-lui le chandail. » Mon cœur, c'est mon chandail. Ma mère m'a donné ça. Ça, c'est ma chair, mes pensées. Ma mère m'a donné ça. Mais savez-vous quoi? J'ai réglé le problème, dit Seigneur. J'étais content et heureux avant de recevoir le chandail. Je vais être content et heureux après l'avoir donné. Ma confiance n'est pas dans le chandail. Mon bonheur n'est pas dans le chandail. Ma joie est en toi. Je lui ai donné ça. Un peu plus tard, j'ai reçu une belle cravate en soie. Italienne encore. Hein? On aime les choses, hein? Les Italiens savent comment faire des belles. On a plusieurs Italiens ici. En fait, on a plusieurs. 1, 2, 3, Anthony, 4, 5, 6. Ouais, ils sont partout. Mais j'ai reçu une cravate. Et j'ai aimé cette cravate. Tu ne peux pas savoir jusqu'à quel point j'étais heureux de l'avoir. C'était une belle couleur, super beau. J'aimais ça. Vraiment, j'ai aimé ça. Peut-être un peu trop. Et le Seigneur, une autre personne est venue me voir et la personne avait besoin d'une cravate. Le Seigneur m'a dit, donne-lui ta cravate. OK. Je venais de donner mon chandail. Mais là, je viens de recevoir une cravate, il me demande de le donner encore. Qu'est-ce que je fais? C'est pas facile pour la chair, mais je dis, écoutons. Pourquoi est-ce que j'ai lu? J'ai des luttes à l'intérieur de moi. C'est une manque de confiance, dans le fond. Je dis, OK, Seigneur, je vais régler ça tout de suite. Mon cœur n'est pas attaché à une cravate. Je le donne. Et je l'ai donné avec joie. Quelques semaines après, je ne sais pas quand, j'ai reçu un appel d'un monsieur dans notre église qui était une personne qui aimait Dieu, qui avait un cœur pour les missions. C'est lui qui a aidé notre église plus que n'importe qui pour avoir un cœur pour les missions mondiales. Mais l'homme était littéralement un millionnaire. Il m'appelle et dit, « Ken, j'ai des vêtements que j'aimerais te donner. Est-ce que je peux passer chez toi? » Oui. Il arrive chez moi avec 35 belles chemises qui vaut facilement 50 dollars US chaque. Là, on recule à peu près 14 ans, là. Puis, deux semaines après, il dit, hey, j'ai d'autres vêtements pour toi. Il arrive avec des costumes en laine qui vaut facilement 500 dollars US. Moi, j'avais rien. J'avais pas les moyens pour acheter quoi que ce soit. Et tout ce que j'ai reçu, j'ai donné comme semence. Si, et je suis convaincu, le Seigneur m'a rappelé là, souviens-toi du chandail, souviens-toi de la cravate. Ça marche. Je n'ai pas dit que c'est du jour au lendemain. Je ne dis pas, oh, je vais donner mes vêtements aujourd'hui. Gardez vos vêtements, s'il vous plaît. Ça ne marche que quand vous êtes en train d'obéir à la voix de Dieu. Si le Seigneur ne vous demande pas de le faire, ça ne marcherait pas. Et une autre chose, ça ne marche pas non plus de sommeil si vous n'êtes pas déjà obéissant dans la dîme. Pour moi, la dîme, c'était toujours depuis l'âge de 9 ans. C'était, ça s'est réglé. La dîme, ça appartient à Dieu. Mais après ça, on donne les offrandes. Amen. Donc, je dis ça juste pour dire que Dieu est bon. N'ayez pas peur de l'obéir. Je n'ai pas dit que ça va arriver de la même façon pour chaque personne. Ça peut être différent. Et ce n'est pas tous les jours. On recule 14 ans et j'ai eu comme 3 livraisons des beaux vêtements que je n'ai plus parce que ça fait 14 ans. Sauf que j'ai une belle paire de souliers ici que j'ai reçu il y a 14 ans. De pasteur, 12 ans. La dernière fois qu'on était en Californie, pasteur Bill Krause m'a acheté ces souliers. Ils ont duré 12 ans. Amen. Encore la même époque. Vois-tu, quand on est fidèle, quand on n'a rien, et Dieu demande, donne ton dernier 5 dollars, donne-le. Donne ta cravate, donne ton chandail. C'est facile pour les gens de dire, oh, mais regarde, lui, c'est facile pour lui de prêcher les choses même parce que lui, il a une maison, il a une moto, il a des habits. Laissez-moi vous dire, vous avez le même Dieu que moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça marche. Alléluia. Père, au nom de Jésus, merci. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu veux qu'on soit prospère, comme prospère l'état de notre âme. Et Seigneur, ça ne donne rien d'avoir des choses de ce monde. Qu'est-ce qu'un homme va gagner, profiter, s'il gagne tout le monde et il perd son âme? Seigneur, les choses sont passagères. Tu sais, tu connais mon cœur. Je suis prêt à tout donner cet instant même. Il n'y a pas une chose que j'ai dans ma possession qui me possède. Et Seigneur, je sais que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est à toi. Seigneur, tu veux que nous soyons un peuple béni, en santé et prospère. Mais s'il y a une personne ici présente, avec tous les yeux fermés, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus, oublie l'idée de prospérer à tous égards si tu n'es pas né de nouveau. Donc, avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin. J'ai besoin de savoir sans aucune doute que je suis né de nouveau. Si je levais la main, est-ce qu'il y a quelqu'un? Prends une minute. Je ne vois pas une main. Peut-être que tout le monde a déjà reçu Jésus. Mais les choses que je partage, c'est vraiment avec, je vais dire la vérité, avec crainte et tremblement que je partage ces choses parce qu'ils sont facilement tordus, facilement mal compris, facilement mal entendus. Le message que je prêche, c'est que Dieu veut être votre Seigneur, votre Maître. Il veut être le centre de votre vie. Il veut être l'amour de votre vie, de votre cours, de cœur. Il veut que votre cœur soit attaché à lui et personne d'autre. Donc, Seigneur, sonde notre cœur. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans notre vie. Si dans notre âme, on n'est pas prospère, si pour une raison quelconque, on n'a pas mis en pratique les principes, si on n'a pas obéi à ta parole, montre-nous, Seigneur, pour qu'on puisse se mettre en accord avec toi et marcher dans tes bénédictions. Oh, merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour une liberté. Libérez ce peuple, Seigneur. Libérez ce peuple de cette mentalité. Libérez ce peuple d'un esprit de crainte, de timidité, de pauvreté et de jalousie. quelqu'un, j'ai vraiment dans mon esprit, si quelqu'un est jaloux d'une autre personne qui est bénie, ça va empêcher les bénédictions de Dieu de se manifester.